Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. Nous sommes en février 2014 et c'est le numéro 31. Bonjour à tous, pour ce numéro enrhumé, je suis avec celui dont le nom est synonyme dans certaines tribus d'Amazonie, d'ancienne et très difficilement compréhensible sagesse, Cyril.
Bonjour.
Son tardis égaré en double fil, c'est le docteur Combe.
Bonsoir.
Et enfin, celui qui va finir par se laisser pousser une natte de padawan, Michael.
Une natte de padawan, oui, oui.
Bonjour. Ou un mulet de padawan.
Excellent, je vais essayer, on verra.
Au programme de ce numéro, nous aurons la critique du livre de base de Star Wars, Edge of Empire, par Michael. Ensuite, une petite nouveauté. Cyril ne va pas nous parler de jeu de rôle, car, comme il me l'a bien fait comprendre, il n'en a plus très envie. Ça le saoule un peu, ça lui tombe des mains, tout ça, tout ça. Donc, en fait, il va nous parler de ce qu'il veut, et ce sera la bulle de Cyril.
Excellent.
Ensuite, nous aurons la critique de Sorcerer Update, par Combe. Puis, Michael et Combe nous parlerons respectivement de Nanochrome et Time Watch. Et enfin, je vous parlerai de quelques petites bricoles et aussi je vous parlerai du podcast. Eh bien, commençons tout de suite par la critique du livre de base de Star Wars.
Bon, alors, ça y est, on s'y colle. On me réclamait sur le blog du podcast comme quoi je traînais pas à faire la critique du livre de base. Bon, il faut dire qu'il y a 456 pages, que je maîtrise une campagne, donc vous comprenez, je vais vous sortir toutes les excuses bidons possibles et imaginables. Mais finalement, après toutes ces absences, j'ai fini par le lire en entier. Donc, on va y aller. Allez, soyons prêts. Donc, Star Wars Age of Empire, un bouquin... excuse-moi, oui, il faut que je valide. À chaque fois que je dis Star Wars, tu dis la suite, Combe, parce
d'accord.
Que toi, tu sais le dire.
Ah oui, on va faire un duo. Alors,
d'accord,
vas-y.
Voilà. Donc, ce livre de Star Wars...
Age of Empire.
Est un livre donc en couleur, avec du beau papier, de belles illustrations, 456 pages pour 60 euros. Voilà, c'est pour faire l'effet standard. Donc, je vais vous parler un petit peu du fond de la...
Tu as dit combien?
60 euros.
60 euros, putain,
ouais.
Vache.
456 pages, je trouve pas ça très cher en final.
Ah ouais,
c'est assez
vrai.
Comparable à un bouquin de, par exemple, de Dark Heresy ou Deathwatch. Toute la série est en fait
ouais.
des bouquins dans l'univers de Warhammer 40 000. Non, je trouve pas ça.
C'est du tout couleur à l'intérieur.
C'est du tout couleur à l'intérieur. Oui, oui.
Il faudrait comparer avec un jeu comme Polaris par exemple, qui est aussi un énorme bouquin en termes de pagination. Ouais.
Alors là, je pourrais pas te dire.
Ok.
Donc
bien.
Voilà, ça c'est pour la forme. Pour le côté du fond, qu'est-ce que je vais vous dire pour faire court, c'est que c'est un bouquin qui est ultra complet. En fait, ça fait énormément penser au livre de base de Warhammer première édition où on achetait le livre de base et on pouvait faire jouer pendant longtemps. Bah, là, c'est vraiment ça. On a des règles, on a les créations de perso, on a les règles de combat et de combat spatial. Il y a même de la force, du matériel, des vaisseaux, la présentation de l'univers, des conseils pour le meneur, les profils de PNJ et un scénario d'introduction, sans oublier un index.
Mais c'est marrant que tu dis ça parce que en fait tu dis ça me fait penser à Warhammer etc, mais c'est ce que c'est pas finalement un jeu de rôle, un truc où tu l'achètes et tu peux jouer avec pendant longtemps,
si,
même
si
maintenant ça se fait plus, c'est passé de
c'est
mode
ça.
Mais...
exactement, alors je vais faire mon vieux con, mais à une époque très lointaine où j'étais vendeur en magasin de jeux, quand les mères arrivaient et nous demandaient qu'est-ce que mon fils veut faire du jeu de rôle, qu'est-ce que vous lui proposez, on lui proposait soit Star Wars D6 soit Warhammer. C'était invariablement toujours la même chose, et c'est vrai que on va dire qu'il y a encore 10 ans on me posait cette question. Si j'avais encore été vendeur en magasin, j'aurais été plus embêté d'être assez catégorique et proposer que deux choix, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça que quand j'ai vraiment lu Edge of Empire, sans parler de la boîte d'initiation dont je vous avais longuement parlé, je trouve que voilà, ce bouquin, il propose tout sous une seule et même couverture pour 60 euros, ce qui est quand même pas mal. Ce à quoi il faut rajouter des dés, évidemment, comme je vous l'ai dit, à 15 euros. Bref, donc ce bouquin, il est vraiment très très complet et on va dire que le seul problème sur le fond, c'est que le style de l'écriture, déjà dans la VO, hein, et ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu sur la VF, je trouve que le style, il nécessite pour le lecteur de faire des pauses, parce que le lire de bord en bord, non, je trouve ça un petit peu chiant. à lire par certains chapitres, soyons honnêtes.
Y a-t-il un historique de tout l'Empire
Ouais, il y a. Quoi, le chapitre
ça, c'est
le plus
pas
chiant,
au contraire.
Le plus chiant, c'est le chapitre sur l'univers, en termes de type d'écriture. Hein, je trouve ça, ça fait très. Livre de droit ou catalogue de je sais pas trop quoi, mais un truc vraiment saoulant, quoi. Ça donne plein d'infos, par contre. C'est
d'accord.
Très exhaustif, mais c'est chiant comme style d'écriture, voilà. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils ont pu en VF, mais voilà, j'étais regarder la VO, on est d'accord. Hein, la VO,
c'est pas
pareil.
Hein.
C'est pareil, oui, parce que je vous parle de la VF, parce que c'est la VF que j'ai décortiquée pour vous. Donc voilà, ça c'est pour le fond, rapidement, et la forme, vous savez. Alors, venons-en maintenant au nœud de l'affaire, les règles, qui sont quelque peu différentes de ce qu'on trouve dans la boîte d'initiation. Oui, je vous préviens tout de suite, lorsque vous passerez de la boîte d'initiation au livre de base pour continuer les scénarios, je ne saurais trop vous conseiller de refaire vos personnages, car les prétirés de la boîte d'initiation ne suivent pas stricto sensu les règles qui sont dans le livre de base. Oui, c'est normal, ils ont dû faire des raccourcis, il y en a pas mal, et certains prétirés sont juste grugés, quoi, grugés dans le mauvais sens du terme, le droïde par exemple. Donc, le principe de Star Wars Age of Empires, c'est quoi ? Les règles se résument à deux choses. Pour faire une action, on va constituer une réserve de dés, des dés un petit peu bizarres, on va les lancer, on va lire les résultats où il y a des symboles. Donc, il y a deux types de dés, en fait, deux grandes familles de dés. Il y a des dés qui ont des résultats positifs et des dés qui ont des résultats négatifs. vous avez, en fait, quand vous constituez une réserve de dés pour faire une action, les joueurs vont utiliser deux types de dés de carac, on va dire. Des dés d'action, ils vont utiliser leurs caractéristiques et leurs compétences. Et ça va faire un mix de dés verts et de dés jaunes. Les dés jaunes, c'est les meilleurs.
D'accord.
Ceux qui ont les meilleurs effets positifs. Grosso modo, les dés verts, c'est les dés de carac. Et si vous avez en plus la compétence, ça vous permet d'upgrader un dés vert en dés jaune. Donc d'accord, vous êtes meilleur que les autres.
Est-ce que ça respecte les règles des couleurs primaires ? Si tu ajoutes des dés verts et des dés jaunes, est-ce que ça donne des dés...
Non, c'est le dés vert devient jaune. Dans l'autre sens, il y a des dés de difficulté. Donc le dé de difficulté de base, c'est le dé violet qui peut devenir rouge si ça...
Si ça tourne mal.
Voilà. Après, il y a deux autres. Il y a les dés noirs et bleus. Les dés noirs et bleus, c'est les dés grosso modo de modificateurs. Les dés noirs, c'est ceux qui te font des crasses. Les dés bleus, c'est ceux qui sont plutôt des bonus. Genre, tu vises pour tirer avec ton blaster. T'auras un dé bleu de bonus pour ton tir. Si t'es derrière un abri, le mec qui veut te tirer dessus, il aura un dé noir.
C'est vraiment pas un jeu pour daltonien, en tout cas.
C'est ça. Bon, ceci dit, les symboles, il y a à la fois la couleur et la forme. Tu vois, les dés de difficulté, c'est des D8. Les dés de... Quoi, oui, des D8. Et leur version upgrade, c'est un D12. Pareil pour les caractères.
D'accord.
Bref. Et les dés de modificateurs, ce sont des D6.
Et question, est-ce que c'est pas chiant à lire, en fait, les résultats des dés ?
En fait, non. Je dirais que c'est la première... c'est un apprentissage très rapide à faire. C'est-à-dire il y a un certain nombre de symboles. Donc, il y a des symboles de réussite, des symboles d'échec. Des symboles de triomphe, c'est-à-dire l'échec, réussite vraiment balèze, ou de désastre, l'échec vraiment balèze. Et après, il y a ce qu'on appelle les avantages et des menaces. Et en fait, ces six symboles, c'est ce qu'il va falloir être capable de lire rapidement. Grosso modo, tu lances tes dés, tu commences par regarder les réussites et les échecs. Si tu as un de plus en réussite, c'est que tu as réussi.
Okay.
Et après, tu regardes les avantages et les menaces, et tu vois ce qui se passe. Donc du coup, ça te permet, avec le système, de pouvoir réussir une action et t'arrive une merde, où tu rates une action mais il t'arrive quelque chose de bien quand même à côté. Donc une fois que t'as lancé tes dés, que t'interprètes le résultat, après donc t'as une sorte de monnaie dans les symboles qui sont les avantages et les menaces que tu vas dépenser. Les avantages, c'est le joueur qui les dépense, il va choisir de les dépenser d'une certaine façon. Les menaces, c'est le MJ qui décide comment les dépenser, évidemment. Sinon ça serait pas drôle.
Et Mickaël fait un grand sourire.
Oui, je suis MJ. Voilà, le système pour moi il est assez simple. La prise en main, c'est 5 minutes. Une fois que les gens, à la limite, peut-être, allez, si on va dire la première heure, pour bien se caler sur les réussites et les échecs, sachant que le MJ est là aussi, hein, donc il n'y a pas tellement de difficultés. Et une fois qu'on a passé ce cap-là, après c'est fini, on n'a plus besoin de se prendre la tête. Et dans l'absolu, les règles, elles se restreignent à ça. On constitue une réserve de dés, on lance les dés. Le MJ va vous dire ce que vous mettez comme... Vous allez vous contenter de regarder vos carac et votre compétence, et il va vous dire combien de dés de difficulté vous rajoutez, combien de dés noirs et de dés bleus, et vous lancez et on l'interprète. D'accord. Sachant donc que les dés sont un support de narration qui peut être partagé, ça peut être le MJ qui interprète, ça peut être les joueurs aussi qui proposent. On peut faire une vraie narration partagée, c'est pas un problème. Et il y a un dernier type de dés dont je n'ai pas parlé, qui sont les dés de destin. En fait, c'est des dés qui symbolisent la force et le côté obscur. C'est des dés qu'on lance en début de session. À chaque partie que vous commencez, vous les lancez, un dé par joueur. et ça va vous donner une monnaie, des points, on va dire des points d'héroïsme, des points de destin, qui sont comme dans Leverage ou autre. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai lancé, j'ai 4 joueurs, ils lancent 4 dés, ils ont 4 points lumineux. C'est des points qu'ils vont pouvoir utiliser. Mais quand ils en utilisent un, ils peuvent en utiliser qu'un par action, il devient côté obscur, donc il sera utilisable après par le MJ. Ça permet d'upgrader un dé, vous avez un dé vert, le faire transformer en dé jaune. Ça permet d'augmenter la difficulté d'un adversaire. Ça permet aussi, pour le joueur, de rajouter un fait dans l'histoire. Donc c'est là où je pense à Leverage aussi. Genre, ah ouais, mais tu te rappelles que j'avais mis dans mon sac un coupe-fil machin, parce que là on a une grille à pouvoir passer, peu importe quoi. Vous pouvez rajouter un truc, doit rester cohérent.
Un coupe-fil dans ce sens-là, je pensais voilà. Plutôt ouais, j'avais un coupe-fil pour aller au dernier concert de...
voilà. Ça peut être, oui, j'ai justement une place pour ce concert, je l'avais réservé depuis longtemps, voilà, bref. Donc c'est un fait, un élément dans l'histoire qu'on rajoute en dépensant ça, mais à partir du moment où on l'a dépensé, il passe du côté du MJ. Le MJ l'utilise, d'accord, aussi de la même façon. Alors il n'a pas besoin de lui rajouter des faits, parce que oui, c'est le MJ, donc c'est son boulot. Voilà. Mais par contre, il peut augmenter la difficulté des joueurs ou améliorer les caractères de ces méchants. Donc voilà pour ce qui est des règles de base. Après, bon, bah dans le jeu, ce qui est intéressant, je trouve, dans le système de combat, c'est que déjà, au niveau du combat corps à corps, quoi, humain contre humain, corps à corps, distance, mais pas avec des vaisseaux. Il y a deux systèmes d'initiative, deux jets possibles d'initiative, si vous êtes surpris ou si vous n'êtes pas surpris. Donc, soit c'est le calme, soit c'est la vigilance. Donc c'est valable pour tout le monde. Et comme dans Warhammer 3, quand vous faites on a jeté l'initiative, on détermine l'ordre d'initiative. Donc c'est par slot, slot joueur, slot PNJ, slot joueur, slot PNJ. Donc c'est-à-dire quand un slot joueur arrive, les joueurs à la table décident qui agit le premier. Donc d'accord. Genre si ça fait joueur, 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 PNJ, premier joueur, qui va ? Ils se mettent d'accord, deuxième joueur qui y va, et ainsi de suite. Donc c'est intéressant parce que justement ça permet d'avoir un aspect tactique, sachant que le système de combat après derrière utilise ni battle map, ni figurine. C'est avec des portées type courte, moyenne, longue, proche, donc des choses juste avec des termes, ouais, et on n'a pas besoin d'utiliser abstrait, voilà. Et à l'inverse, ça peut être très tactique sur l'initiative, donc c'est intéressant, je trouve. Ils ont trouvé un juste équilibre de la chose, d'accord, que je trouve bien, qui était dans Warhammer 3 aussi, bien sûr, mais que je trouve ils l'ont conservé, ils ont bien fait.
Et que tu trouves, toi, bien utilisé
Ça marche très très bien, en fait. Ça marche très très bien parce que des joueurs qui sont dans la merde et ils avaient justement un rang d'initiative élevé avant que le gros méchant PNJ n'agisse, ça permet de mettre le gros balèze, le gros Wookie mercenaire qui peut agir, faire agir très vite pour pouvoir faire en sorte que... Donc ça, non, ça a un intérêt. D'accord, je trouve que ça permet de compenser. Après,
ça permet peut-être aussi d'éviter que les, dans les grands combats, typiquement, il y en a qui dorment un peu dans leur coin, en attendant leur tour, quoi. C'est un peu de.
Tout à fait.
Ils sont plus impliqués dans le.
Ouais, parce que justement, on se met d'accord, donc il y a un côté tactique implicite grâce à l'initiative. Donc, au niveau du reste des règles, il y a quelques principes intéressants.
Je peux juste te dire. Je t'en prie. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis sur les dés. Mais du coup, on a du mal à voir un peu statistiquement ce qui se passe, c'est-à-dire est-ce qu'on réussit souvent, etc. Et c'est difficile à dire, je pense, sans l'avoir pratiqué de toute façon. Mais je fais un appel. Ce serait super intéressant si quelqu'un qui fait des statistiques se mettait à faire un blog de statistiques des livres de règles de jeux de rôle. Moi, je serais un grand lecteur de ce truc-là.
Rappelle-toi que, par exemple, dans un jeu comme L5R, il y avait une table qui mettait, par rapport au rang de compétences et de traits, il y avait des statistiques qui étaient marquées.
Il y avait pas mal de jeux
qui le faisaient, et il y a des gens sur le net qui font des applis qui disent ouais, bien sûr, il y a ça, tout complètement. Ouais, et je crois même qu'il y a une appli qui permet de pouvoir sortir les stats, quoi qu'il arrive. J'ai un de mes joueurs qui avait dû trouver ça, je sais plus trop où. Je me renseignerai.
Pour faire des trucs du style, oui, nous avons 72% de chance de
te faire le plan à la 6PO qui va être, mais nous avons une chance sur 1 million de réussir.
Ouais, finalement, on va pas y aller.
Voilà. Alors, au niveau de la mécanique, toujours, il y a d'autres choses intéressantes. Je trouve que, voilà, sur le combat, il y a deux jauges, en fait, sur un personnage. Il y a le stress et il y a l'encaissement. Les blessures, pardon. Donc, ces deux aspects, voilà, par exemple, si on vous tire dessus avec du neutralisant, on va plutôt jouer sur le stress. Si vous voulez, parce que normalement, on a le droit à une action, une manœuvre. Si vous voulez faire une manœuvre de plus, vous récupérez deux points de stress. Donc, bref, c'est deux jauges qui marchent en parallèle et qui fonctionnent assez bien. Et de la même façon, donc, vous avez aussi la défense et l'encaissement. Donc, le soak, qui est l'encaissement, vous enlevez à vos dégâts. Et la défense, qui va être des difficultés en plus pour vos adversaires pour vous toucher.
J'arrive pas à imaginer Yoda stressé. C'est pour ça que ton système me paraît pas.
Je comprends. Et le dernier truc dans les dégâts, il y a les blessures critiques. Alors les blessures critiques, avec une table de blessures critiques qu'on lance avec des pourcentages,
par arme,
où il peut se passer. Non, non, pas par arme. Il y en a une pour les combats spatiaux et une pour le combat au corps à corps.
C'est dommage parce que t'aurais vu le regard brillant.
Ouais, mais c'est un fan de Warhol Master, ouais. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'empêcher. Et donc, ça fonctionne assez bien. Plus vous êtes blessure critique, plus par blessure critique, c'est plus 10 sur la table. Et puis, plus vous êtes haut, dans genre 150%, plus vous avez le risque de mourir. Donc, voilà, c'est le côté sympa. Y a des états préjudiciables, mais il n'y en a que 3. Désorienté, étourdi et immobilisé. Donc, je trouve que c'est plutôt simple. Ça limite les enquiquinements. Deux autres choses. Une dernière chose sur le combat. Il y a 3 types de PNJ, on va dire. Il y a les sbires, les rivaux et les némésis. Et les sbires, ça fait vraiment penser à Seven Seas de ce côté-là. C'est des gars que vous pouvez abattre d'un seul coup.
Tu lances un dé pour savoir le
par douzaine,
le nombre de...
Par douzaine, peut-être pas, mais dès que vous leur faites une blessure critique, ils meurent tout de suite. Ils peuvent pas utiliser de stress. Et puis, en fait, c'est un groupe. C'est-à-dire, individuellement, ils ont peu de points de vie. Mais si vous avez un groupe, par exemple, un Stormtrooper, on va dire, hasard,
c'est ça, ouais.
On va dire qu'il a, s'il a 5 points de vie en sbire, vous en avez 4, donc ils ont 20 points de vie au total. Et par groupe de 5 points de vie que vous infligez, il y en a un qui meurt.
Charte, ouais.
Donc ça marche très très bien. Et pour ce qui est du combat spatial, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que le combat spatial implique tout le monde, en fait, vraiment. Et puis on peut surtout faire comme dans Star Trek, on peut dévier la puissance des boucliers de l'avant vers l'arrière ou sur le côté. Bref, c'est assez sympa. Il y a plein de manœuvres qui permettent d'impliquer un peu tout le monde. Ça marche vraiment très très bien, le combat spatial. Donc bref, voilà, le système de jeu, globalement, j'en suis très très content. Là, j'en suis à 4 parties avec la même équipe. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment du tonnerre. C'est très intuitif. Comme je vous disais, ouais, je pense la première demi-heure, il aura fallu pour apprendre à lire les dés, pour y être à l'aise, on va dire. Et puis après, voilà, il se pose même plus la question. Voilà. Donc ça, c'est pour les règles. Pour la création de perso, c'est assez simple. Alors, vous choisissez une race. Il y a pas mal de races de proposer parce que vous pouvez jouer un Botan, un Droïde, un Gand. Me demandez pas ce que c'est un Gand, il faut aller voir l'illustration. Ah. Je pourrais pas vous l'expliquer comme ça. Un humain, un Rodien, un Trandosien, donc c'est Bosk, un putain de chasseur de primes qu'on voit aussi, bref. Twi'lek et Wookie. Donc voilà, ça vous donne un éventail de chirage.
Une nana Twi'lek, une danseuse espionne Twi'lek.
Sachant que sur les droïdes, vous avez pas mal de choix aussi à l'intérieur des droïdes. Après avoir choisi la race, vous choisissez en fait une carrière. Alors il y en a 7. Il y a chasseur de primes, colon, contrebandier, explorateur, fugitif de la force, mercenaire et technicien. Et en fait, à l'intérieur de chaque carrière, après, vous choisissez une spécialité. Exemple, le chasseur de primes, il va être par exemple assassin ou expert en gadget. Le contrebandier, il va être pilote ou vaurien.
J'ai une question, ça fait pas chier d'être un colon ?
Oh, putain, oh là là.
Ça c'est fort. Ça c'est oui, ça c'est du grand Cyril. Merci Cyril.
Merci.
Voilà. Et en fait, à partir de la carrière et de la spécialité que vous allez donner, ça va vous donner votre choix de compétences et de talents.
D'accord.
Donc il y a des arbres de talents, voilà.
Un peu World of Warcraft.
Bah, en fait, tu dépenses tes XP. En fait, tu dépenses tes XP, ça te permet de donner des talents. Il faut qu'il y ait un chemin. Tu dois suivre un chemin. Donc, chaque talent doit être lié à un autre.
Et c'est, on dirait Civilization 5.
Voilà, exactement. Et après, en fait, il y a deux autres choses qui sont importantes. La première, c'est que vous devez déterminer une obligation. Chaque perso doit avoir une obligation. Ça peut être, par exemple, une dette. Ça peut être des éléments qui sont... On dépense des points et plus vous en dépensez dans cette obligation, plus vous avez des XP en bonus qui vous permettent de... Mais voilà,
d'accord.
On va y revenir aux obligations.
Ouais.
Une motivation, ce qui va un peu vous aider à gagner plus de XP. Et ensuite, vous choisissez votre vaisseau de groupe. Parce que de base, dans Age of Empires, vous avez un vaisseau. Donc,
Ça, c'est classe quand même.
Voilà, c'est quand même classe. Vous avez 3 choix de vaisseau dans le livre de base, dont le fameux
T-1300.
Voilà, le vaisseau de transport léger classique corélien comme on l'aime. Voilà, donc ça c'est pour la création de perso, ça fonctionne, c'est très simple à mettre en place. Voilà,
et le vaisseau, tu peux le tuner quand tu l'as...
Alors il y a des règles plus loin dans le matériel, il y a des petites règles de tunage d'armes et de vaisseaux. Alors elles sont pas ultra ultra longues, je pense qu'il y a un supplément qui va permettre de faire ça, genre au hasard le supplément du contrebandier, mais déjà il y a déjà des choses à faire dans le livre de base, donc ça c'est plutôt bien. Après, il y a la présentation de l'univers, donc c'est un gros pavé. Je vous rappelle que Age of Empires se situe entre l'épisode 4 et l'épisode 5, donc après la Battle de Yavin. Dedans, ce qui est très bien dans le chapitre de l'univers, qui est très chiant à lire, je vous le rappelle, parce que le style est vraiment à chier, il y a une carte de la galaxie avec les différentes routes et machin. C'est très, très,
et d'ailleurs,
très, très, très,
je tiens à dire qu'elle ressemble très, très fort à la carte du métro parisien. avec l'espace sauvage, qui est donc la zone 6, des choses comme ça.
Ouais, non, non, c'est. Donc, on retrouve la route corélienne, la passe de machin. On retrouve plein les différentes routes. Donc, ça permet de. Les couloirs hyperspatiaux, voilà, comment ils appellent ça.
C'est quand tu arrives à la planète qui s'appelle Vert de Maison par exemple, tu sais que tu t'es trompé.
C'est ça.
C'est un jeu où on voyage beaucoup donc en vaisseau spatial, parce qu'on a un vaisseau spatial donc il faut voyager.
Voilà, le but, Edge of Empire, c'est vraiment pour moi l'approche Cowboy Bebop Firefly. C'est vraiment l'ambiance niveau de gris, contrebande, machin, c'est Han Solo quoi. C'est vraiment
Et du coup il y a du Jedi ou pas?
Alors comme je t'ai dit, il y a une carrière de fugitif de la Force. Alors c'est pas Jedi pur, c'est un gars qui est sensible à la Force, donc il va avoir des pouvoirs de la Force. Il y a trois arborescences de pouvoirs: déplacement, détection et influence. Mais c'est pas du full-fledged Jedi, c'est pas du gros balèze, non. Mais c'est moi personnellement, dans ce jeu-là, la Force, je l'aurais bien dégagé, tu vois. Je voyais pas la nécessité de l'avoir.
En fait, c'est revenu un petit peu à la façon dont était traité le Jedi dans la première édition, finalement. C'est ou un personnage qui est pas
non parce qu'il y avait pas que le Jedi exalté, il y avait le Jedi mineur dans la version des 6 aussi.
Oui,
et ça commençait à
et
pouvoir
le Jedi,
monter
le Jedi repenti aussi, il y avait pas un truc comme ça.
Je sais plus, il y avait l'exalté,
le Jedi à la colo,
ah, colo, ouais, voilà. c'était l'exalté. Ah non, c'est oui c'est raté, oui. Jedi raté,
c'est celui-là que je jouais moi,
le Jedi raté, le Jedi exalté, le Jedi mineur.
Petit, tu veux voir ce que je vais faire avec la Force?
Celui qui vomit quand il monte dans le vaisseau,
c'est ça, c'est lui. Après la présentation, elle est la galaxie
Obi-Wan Anakin.
Donc toute la galaxie est présentée. On vous présente donc les couloirs hyperspatiaux dont je vous parlais là, les différentes régions, noyau profond, monde du noyau, colonie, bordure intérieure, extérieure, bref, j'en passe. L'espace des huts, le secteur corporatif, tout est passé en revue. Et vous avez même quelques fiches de planètes au hasard: Bespin, Corellia, Kessel, Tatooine et quelques autres. Il y en a 2, 4, 6, 8. Et ensuite on vous présente les différentes factions, donc l'Empire galactique avec toutes les organisations type Comporn, BSI, Marine, Armée, Douane, quoi, tous les gens que vous allez côtoyer.
On va désinguer par douzaines.
le moins possible de préférence. L'Alliance Rebelle, le Soleil Noir, les Huts, et après un peu de tout, des pirates, quoi, très rapidement, les pirates, le consortium de Zan et les autres bêtises du genre.
D'accord.
Ensuite, toujours dans l'univers, même c'est pas vraiment l'univers, mais je l'associe dedans parce qu'il y a tout un chapitre sur les adversaires, donc les profils de PNJ, où vous avez
donc,
tout est passé en revue.
Où les rencontrer.
Voilà, non. Vous avez les Karak en fait, et un peu de background aussi à chaque fois sûr. Ouais. Tout est passé en revue, de la pègre au personnel de Spatioport, en passant par les fameux commanditaires type Soleil Noir, Hutt et compagnie. Vous avez tout, même il y a même du Jedi, du Minok et du Rancor, vous pensez bien, c'est normal. Et des droïdes, pas mal de droïdes. Ce qui vous permettra de pouvoir choisir le type de droïde que vous créez si vous en voulez. Au niveau du matériel, il y a énormément d'équipements. Avec ce qui est, je trouve que le chapitre sur l'équipement et les vaisseaux et les véhicules, c'est pour moi le chapitre de background le plus intéressant. Je veux dire, là c'est mieux écrit, ça donne plus envie que le chapitre univers.
Peut-être qu'ils se sont plus fait plaisir aussi.
Voilà, c'est fort possible en fait.
Parce que ça, c'est utilisable en jeu tout de suite. Donc, ouais. Voilà.
Donc vous avez tout, les speeders, les vaisseaux, de la cybernétique, de machin, de tout. Il y a vraiment tout le matériel du scanner de base, en passant par tout ce que vous voulez. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire, il y a vraiment du choix. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, il y a aussi une petite, petite section rapide sur l'amélioration d'armes et de vaisseaux. Donc voilà. Après, le chapitre univers qui était chiant à lire, mais qui était très complet, donc qu'on va lire juste pour aller chercher l'information qui nous intéresse, mais qu'on va pas lire d'une traite. Il y a le chapitre de conseil aux meneurs, qui, de la même façon, n'est pas passionnant à lire, mais qui traite tous les aspects. Donc à la fois la préparation et la maîtrise de partie, la création de scénar, la maîtrise de campagne, la gestion des obligations et des motivations, parce que je vous ai parlé des obligations, il va en prendre une. En fait, ce qui se passe au début de chaque partie, c'est un petit peu un système transverse d'intrigue. Vous avez chacun une obligation, tous les trois, une obligation à 15. Donc je lance un dessin en début de partie. Si je fais entre 1 et 15, c'est l'obligation de Cobalt qui va être déclenchée pendant la partie.
D'accord.
Entre 16 et voilà. Et en fait, en plus du scénario, ça va être un lien. Donc t'as une dette, machin. Hein. Ah bah tiens, il y a ton pote à qui tu devais, machin, qui va te contacter pendant la partie. Tu vas devoir te démerder. Alors tu peux la refuser trois fois d'agir, mais après, tu payes plus cher.
Ouais, d'accord. Donc, ah, mais c'est intéressant. Ça,
l'obligation, un système intéressant, même si de base, lancer un dessin, c'est pas très passionnant en début de partie.
Ouais.
Mais c'est un peu une façon de contraindre un peu le MJ
c'est lancé
à déclencher.
Par le MJ devant tout le monde ou dans
oui.
son coin.
Oh, ça peut même être le joueur qui le lance, hein, peu importe. On pourrait le faire en secret. Le MJ pourrait le faire en secret. Moi, je trouve ça plus rigolo de le lancer parce que justement, ça met d'autant plus
ouais,
la pression aux joueurs.
Pression,
et puis peut-être qu'ils vont même te donner les autres joueurs. Vous donner une idée pour déclencher, donc moi je trouve ça sympa. Mais c'est aussi une façon d'intégrer dans les règles quelque chose que naturellement un MJ avec de la bouteille ferait, qui est d'intégrer les histoires personnelles quand on, comme tous les gens qui regardent des séries aiment découvrir les personnages au fur et à mesure, bah, c'est aussi ça. Donc je trouve ça plutôt, plutôt très bien d'avoir intégré ce système dans le jeu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre après? Voilà une présentation assez rapide du... Quoi, rapide? Non, pas rapide du tout d'ailleurs. Du jeu, mais j'espère à peu près exhaustive. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans le jeu? Donc, que j'ai pas aimé... Alors, la première chose sur la version française, il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est que sur l'équipement, les vaisseaux, les profils de PNJ, ils ont pas été classés dans l'ordre alphabétique français. C'est con, mais
ah,
c'est
ouais.
super utile de les avoir dans l'ordre français. Et là, ils l'ont pas fait, alors...
Faut se repencher à l'index du coup.
D'expérience sur les traductions. Je me doute bien que l'éditeur américain a pas dû les aider à dire ah oui mais non cette illustration elle doit rester sur cette page là. Ah oui mais en l'ordre alphabétique français ça devrait pas être là, ça devrait être une autre page. Donc c'est fort possible que ils aient été les esclaves de règles fixées aux US. Mais il n'empêche que c'est vraiment chiant pour le MJ de se dire alors attends ah ouais le chasseur de primes machin ah, attends il est où? Ouais bon je vais aller regarder dans l'index. Hein. Alors si tu dois tout le temps passer par l'index, c'est chiant de ce côté.
Oui, c'est
donc
vrai.
Ça c'est un truc qui m'a saoulé. Après donc comme je vous l'ai dit, le style d'écriture du chapitre sur l'univers qui fait vraiment penser à un livre de droit, hein. Sachant qu'il y a des petits encadrés dans le chapitre univers de background qui sont c'est un chasseur de primes qui donne des conseils et ceux-là aussi ils sont censés être plutôt punchy tout ça, mais en fait c'est chiant. Il est nul le mec.
C'est
le mec inintéressant. Donc je pense que les mecs qui ont écrit ça à l'origine en anglais se sont fait chier en fait. Et ça se sent.
C'est une commande. C'est peut-être pas des auteurs en fait. C'est
tout à fait. Je sais pas du tout.
C'est un chasseur de primes de Rastenic qui donne ses conseils les plus mauvais.
C'est un contrebandier. Mais voilà, donc ouais. C'était dommage. Le scénario d'introduction, j'ai oublié de dire qu'il y avait un scénario d'introduction.
Si, tu l'as dit.
Ah, j'ai dit. Ah, d'accord. Le scénario d'introduction, il casse pas trois pattes à un canard. Les joueurs doivent appréhender le chef d'une organisation dont la tête a été mise à prix. Ouais, le scénar, la mini campagne gratuite qui est disponible sur le net, le Hut à le bras long,
ouais.
disponible en français traduite
ouais.
gratuitement, est mille fois mieux. Mais okay. vraiment mille fois mieux. Et en plus, elle fait la suite du scénar qui est dans le livre de base qui est très classique.
Oui. Il faut appréhender qui?
Un chef d'organisation. Ah,
je comprends que le colon ait peur d'appréhender.
Oh là là là
putain,
là.
Le scénar d'introduction.
Ah, d'accord. Donc après, ça c'est un avis très personnel, mais moi la force, pour moi qui a un chapitre sur la force et qu'on puisse jouer un fugitif de la force, personnellement je vois pas l'intérêt. Je préfère avoir un jeu à la limite, comme il y a le jeu suivant qui est l'Alliance Rebelle et qui, j'imagine qu'il y aura après un autre encore.
Ouais.
J'imagine qu'à un moment on pourra avoir un jeu où on jouera un Jedi tout simplement et ça sera plus simple.
Oui. Donc en fait le jeu est pas conçu pour jouer un Jedi finalement.
Tout marche, la mécanique marche.
Ouais,
hein. C'est
sûr.
L'inverse de ce qu'ils avaient fait sur Dark Heresy où il y avait un scénario dans Dark Heresy. Dans le premier supplément Purifié par le Feu, où on croisait un Space Marine dedans,
ouais.
un sergent Space Marine, uh-huh. dans un Space Hulk. Et on voyait qu'ils n'avaient pas encore développé les règles à l'époque. Et donc c'était complètement le bordel. Mais voilà, c'était complètement. Et après, derrière, ils ont sorti des jeux de Death Watch où on pouvait.
Oui, oui.
Et puis après, derrière, encore mieux. Mais voilà, là, c'est prévu, ça fonctionne. La mécanique, comment c'est créé, ça me paraît très bien. Et c'est juste que ça sera plus gros billet avec des Jedi plus tard. Mais bon, on verra. Donc voilà, donc pour moi c'est pas indispensable. Donc ce qui est dommage évidemment, c'est que pour ce jeu-là il faut acheter des dés spécifiques
oui.
qui serviront pas dans d'autres jeux.
Ben,
oui.
c'est
donc voilà, 15€ les dés. Je vous ferai encore une fois, comme je vous l'ai dit sur mon retour d'expérience sur la boîte d'initiation, je vous conseille d'acheter des dés plutôt qu'avoir l'application sur votre téléphone. Vous en servirez pas de l'application sur votre téléphone. C'est beaucoup plus rapide d'utiliser les dés,
ouais.
beaucoup plus sympa, beaucoup plus visuel pour tout le monde pour interpréter.
Et puis avec l'application, on peut pas faire les petites pyramides de dés de François.
Voilà. Tu peux faire les pyramides
et
de téléphone,
pas,
mais bon, c'est.
Tu peux pas les marabouter non plus, ceux de ton voisin
oui,
ou celui
c'est
du
ça.
MJ, tu vois.
C'est ça, tu peux pas dire mon téléphone a pas de chance, passe
d'ailleurs.
Oui, ouais, c'est ça.
Ça serait une fonctionnalité sympa pour une application de dés.
Le maraboutage.
Pyramide, non, sur la pyramide.
Ah, ouais. D'accord. Ouais, pourquoi pas.
Ouais, ou de les punir s'ils font de mauvais résultats.
En les mettant dans un coin.
Alors après, le dernier truc que j'ai pas aimé, mais là c'est plutôt pour faire mon vieux con, j'étais habitué au nav ordinateur qui maintenant est un navi ordinateur, mais bon, ça c'est parce que les vieux héritages de la version D6, tu vois, t'es habitué à dire nav ordinateur et voilà.
Ouais,
manquerait plus qu'ils appellent ça Astrio. astrogation et qui transforme ça en astriogation, je sais pas quoi. Oh là là. Ils l'ont pas fait, non. Mais bon, bref, là c'est vraiment pour l'année.
Comme a remarqué aussi des petites typos ici et là.
Non. Ah bah non, mais je voulais pas le dire parce qu'après on va dire qu'à chaque fois je fais mon relou là-dessus. Non, c'est juste que pour le coup ça la fout mal, c'est-à-dire que je feuilletais le livre pendant que tu parlais. Alors déjà j'ai eu un peu de mal à trouver la table des matières parce qu'elle est pas au début, elle est après 4-5
ouais,
pages.
Après l'introduction en fait, c'est
bizarre. Et je regarde la table des matières, machin, je vois chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapter 5. Ah tiens, ils en ont oublié
c'est
pas...
Ça c'est l'erreur de maquette. Ouais.
Bon
ça,
non, mais classique. Voilà, c'est juste un petit truc hein, pour le coup. Ouais.
Après... Mais c'est quand même un beau livre. Moi,
alors après voilà, moi ce que...
C'est très beau comme livre.
Après, ce que j'ai aimé dedans, évidemment, le fait que ce soit un bouquin qui est ultra complet, 60€ et vous êtes prêt à jouer, avec les 15€ de dés qui vont avec. Quoi, si vous avez acheté la boîte d'initiation, le problème ne se pose pas. Je trouve que les règles sont super bien affinées par rapport à Warhammer 3. Ils sont vraiment débarrassés des choses qui n'apportaient pas grand-chose au final, à part complexifier la tâche du MJ et donc faire en sorte qu'il ne soit pas capable de gérer plus de 3 joueurs. Là, 4, 5, 6 joueurs, c'est pas un problème. La mécanique qui est assez simple et assez rapide à appréhender, où le fait que les dés soient un support de narration, je trouve ça très 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 bien. Sachant que voilà, pour apprendre les règles, il suffit d'apprendre à constituer sa réserve de dés et de lire les résultats, point. J'aime bien la mécanique de scénario dans le scénario que sont les obligations, je trouve ça très bien.
Oui, ça permet de créer un univers vivant, en fait.
C'est ça.
Et de faire tourner l'histoire aussi autour des personnages, comme voilà. Tu l'as dit, avec l'effet un peu série, Firefly, etc.
Ouais, exactement. Et le truc aussi qui est un index. Je sais, c'est con, mais c'est quand même vachement utile. Donc voilà, donc pour moi, c'est un excellent livre de base qui me fait donc penser à la première édition de Warhammer, ce qui est une qualité indéniable. À mon avis, c'est vraiment le jeu, la version du jeu idéal pour faire jouer à Firefly, Cowboy Bebop, quoi, ces ambiances-là, ou juste ambiance Han Solo, tout simplement. Donc, un très très bonne chose. Et je voudrais rajouter deux petites choses importantes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont acheté la boîte d'initiation d'introduction de Star Wars, que je trouve dont je ne dirai jamais autant de choses que du bien, et qui contient des dés pour pas cher du tout. Donc ça sera très utile par la suite. Elle est très bien cette boîte, mais vous devrez donc refaire vos pré-tirés quand vous passerez à la vitesse supérieure. Pour ce qui est du Hutt Albralon, la mini-campagne gratuite sur le net, donc qui s'appelait Long Arm of the Hutt en anglais, je vous avais dit que, à mon avis, il y avait 6 sessions de jeu ou quelque chose comme ça. On s'est un petit peu moqué de moi sur le blog. Bon, il se trouve que j'ai des joueurs qui sont un peu des gros boulets. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, je viens de finir l'acte 1 après 3 sessions de jeu, sachant que la boîte d'introduction, je l'ai fait jouer en une soirée. Donc, voilà. Donc, non, en fait, quand je vous ai dit qu'il y avait 6 parties, je pense que pour moi, ça sera probablement 9 parties pour finir, parce qu'il y a 3 actes dans le scénar. Je pense que on a que les joueurs qu'on mérite. Hein. Je suis un boulet, j'ai des joueurs qui sont des boulets.
D'ailleurs, je ne sais plus si j'avais mis l'adresse pour obtenir cette campagne.
Oh, bah, c'est tout simplement sur le site de Edge.
Ouais, je mettrai le lien, il faudra m'y faire penser.
Faut avoir de mémoire, faut juste s'inscrire sur le site de Edge pour pouvoir la télécharger. C'est pareil sur Fantasy Flight si vous la voulez en anglais. Mais bon, là, ça a été traduit, donc autant en profiter. C'est assez simple, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sinon, bientôt, justement, qui sera disponible gratuitement sur le net, sur le site de Edge en français, il y aura le scénario Shadows of the Black Sun, donc qui va s'appeler très probablement Sous le Soleil Noir, qui est encore du jeu gratuit. Donc si vous avez acheté que la boîte d'initiation et que vous jouez le Hutt Albralon, et ben vous allez avoir un scénario encore qui va s'offrir à vous gratuitement. C'est quand même sympa. Donc ça sera un livret de 40 pages avec 12 pages d'explication des règles, ce qui vous permet d'upgrader par rapport au truc d'introduction. La fiche de planète de Coruscant, donc la planète mère. Un scénario qui est assez basique, qui fait la traque d'un chasseur de primes qui a trahi son employeur. Et 6 pré-tirés supplémentaires qui seront 4 ou 6, je ne sais pas encore, j'ai pas eu la confirmation. Donc il y aura le contrebandier humain, une exploratrice rhodienne, un mercenaire trandosien, une technicienne botane et peut-être en plus un chasseur de primes droïde et un médecin Wookie. Donc voilà, okay. Il y aura tout ça gratuitement disponible sur le net prochainement. Sachant que voilà.
J'ose même pas imaginer comment il fait les piqûres, le médecin Wookie avec ses grosses pattes et tout.
Bah pour l'anesthésie, je pense que c'est assez simple. Pour le coup.
Donc voilà. Donc, sur la nuque et hop.
Pour encore insister une dernière fois, je pense que la boîte d'initiation de Star Wars Age of Empires, c'est le meilleur outil pour vous rendre compte si vos joueurs accrochent ou pas. Parce que l'investissement est très faible et vous avez des dés. Et derrière, en achetant le livre de base, comme vous auriez déjà des dés qu'il y a eu dans la boîte d'initiation et que vous avez des choses, plus les campagnes la mini-campagne gratuite et le scénario gratuit qui sont là, Quoi. Avant d'acheter le livre de base, vous avez vraiment le temps, en nombre de sessions, de vous faire une idée si vraiment c'est le jeu qui vous branche. Et après, bah, vous claquez les 60 euros ou pas. Mais à mon avis, je pense que je connais pas de jeu là comme ça qui me viennent à l'esprit. Ou pour, je crois que c'est 20 euros la boîte d'initiation de Star Wars. Ou ouais. Pour 20 euros, vous pouvez jouer une 10 peut-être 12 sessions de jeu gratos derrière. C'est quand même pas mal, je
mais trouve. Mais les joueurs ils vont pas réfléchir là-dessus, ils vont se dire c'est la guerre des étoiles ça reste quand même
il me faut tout.
C'est ah il y a un jeu de sur la guerre des étoiles, c'est bon.
Pas forcément en fait, quoi. Il y a des joueurs comme moi, tu vois, bon, ils avaient pas joué à Star Wars depuis très longtemps, ils ont remis le couvert, ils étaient bien contents, mais rien ne dit que d'abord d'une part avec le MJ, si le MJ a et les joueurs sont pas dans la bonne journée qui va bien, que ils accrochent, ou que le système de dé au final ils disent ouais non, moi je préfère un truc où c'est super mécanique, où je peux optimiser mon perso, le minimaxer dans tous les sens et machin, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, l'investissement, c'est en ce moment, à mon humble avis, un des jeux les moins chers dans lequel investir en achetant la boîte d'initiation pour jouer un certain temps et passer à autre chose éventuellement, ou passer au tiroir caisse et jouer encore plus longtemps derrière. Voilà.
Et après, t'as le matos pour en un seul bouquin.
Voilà, ouais, exactement. Donc, c'est vachement bien. Voilà.
Par contre, c'est un peu décevant pour le scénario, quoi.
Oui, le scénario d'introduction du livre de base, je trouve juste que c'est ils se sont fait dessus, quoi. Ils ont raté leur coup. Le scénario d'introduction de ce livre de base, il est mauvais. Comme moi, pour moi, il est mauvais. Alors que la mini campagne Longer Than the Hutt, le Hutt à le bras long, elle est très très bien. Et surtout, elle fait la suite du livre d'introduction pour vous dire grosso modo ce que
donc
je trouve
t'es
vraiment
quand même
bien.
Obligé de jouer le scénar de.
Ah, moi je conseille vraiment. Quoi. Non, tu peux démarrer tout de suite Longer Than the Hutt, mais d'accord. Moi je pense vraiment que c'est intéressant de jouer le scénar d'introduction qui est dans la boîte d'introduction. D'une part parce que c'est un scénar assez classique, mais qui vous enseigne la mécanique. Ouais. Et derrière, vous piquez un vaisseau, vous barrez de Tatooine, et le début de Longer Than the Hutt, c'est vous voulez sauter en hyperespace, vous sautez en hyperespace, et là soudainement il y a des alertes de partout qui se déclenchent. Et là déjà, vous connaissez, vous avez piqué un vaisseau, donc vous savez pas ce qu'il y a dedans vraiment. Vous l'avez piqué, vous avez décollé, vous vous êtes fait poursuivre par des chasseurs taille et vous passez dans l'hyperespace ou pas. Et là, il y a des alertes de partout et vous essayez d'explorer votre
un champ d'astéroïdes ici.
C'est la meilleure introduction de
possible,
scénar que moi je trouve, quoi. Et ça marche du feu de dieu en jeu. Donc le Hutt à le bras long, le début du scénario, cette première partie, elle est exceptionnelle, ouais, vraiment.
Ok. Mais donc c'est celui de la boîte d'intro qui est bien.
Celui de la boîte d'intro, il est juste avant celui-là en fait. Ouais. C'est-à-dire le scénar de la boîte d'intro, tu commences sur Tatooine et le but c'est de te barrer de Tatooine le plus vite possible.
D'accord.
Et le Hutt à le bras long, il prend juste quelques secondes après la fin du scénar. Voilà.
D'accord.
J'ai parlé beaucoup, merci, désolé.
Merci Michael. Et maintenant, je vous propose une expérience complètement différente, puisque nous allons rentrer dans la bulle de Cyril.
Alors, je tiens à préciser que je suis toujours rôliste, hein, parce que tu avais l'air de sous-entendre que...
J'ai dit que tu n'avais plus envie de lire de bouquins de jeux de rôle.
Avant-hier encore, mon super-héros communiste redressait les torts dans l'Europe parallèle des Brigades chimériques.
Voilà. D'accord.
Donc je pourrais t'en parler un peu plus longtemps, mais là, ce soir, je voudrais vous parler de l'espace. Alors je vais commencer par une petite question et je vais vous laisser trouver la réponse pour vous-même et on en reparle à la fin de mon petit exposé. Quelle est la date historique la plus importante que vous ayez vécue durant votre vie ? Donc, vous avez, je sais pas, le mur de Berlin qui s'écroule, ce genre de choses, l'émergence d'Internet. Bon, bah, je vous laisse réfléchir à tout ça. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'espace. Et en particulier de l'espace que nous trouvons dans la science-fiction, dans les romans de science-fiction, dans les films de science-fiction, dans les jeux de science-fiction, comme celui que vient de critiquer Michael. Dans chacun de ces supports, les auteurs se trouvent confrontés au fait que l'espace entre les planètes est trop grand. Alors pas seulement grand, mais vraiment trop grand. C'est d'ailleurs comme ça que le professeur du cours d'astronomie en ligne que je suis en ce moment résume toute l'astronomie. L'univers est grand. Voilà, je mettrai le lien sur le blog.
Et ce mec-là, il a fait 10 ans d'études pour arriver à ça, quoi.
Non, mais ils se sont assis durant 3 heures, toute une équipe, ça, pour résumer en une seule phrase l'astronomie.
Mais c'est ça la recherche, les gars.
Voilà, bref. Et donc, l'espace sépare et il sépare aussi les histoires. Et c'est là qu'on en vient aux romans de science-fiction, aux films et aux jeux. La science-fiction, pour moi, elle devrait être enseignée dans les écoles, car c'est le genre littéraire qui se rapproche le plus de la philosophie en ce que la science-fiction permet de tester les limites de la condition humaine, de s'interroger sur des, des concepts sur lesquels on a
des idéologies sociales, ouais, des trucs comme
ça. Enfin voilà, c'est, ça permet de,
champ expérimental.
Voilà, c'est un champ expérimental. Cet espace trop grand donc se met souvent en travers de l'histoire. On est d'accord. Du coup, les auteurs, quel que soit le format, ont tendance, comme c'est le cas dans La Guerre des Étoiles avec cette technologie hyperspatiale, à minimiser, éclipser, voire effacer l'espace, en ne tirant pas toutes les conséquences de son immensité. En cadrant le jeu dans, par exemple, la banlieue spatiale de la Terre, c'est une solution simple, ou en utilisant la magie déguisée en technologie, comme le fait Star Wars, pour rendre le voyage plus rapide que la lumière. Donc, alors peut-être que ces technologies vont, peuvent exister hein, physiquement, les technologies hyperluminiques, superluminiques. Peut-être qu'elles existeront à un moment donné. Bon, ça, j'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que l'espace est sous-estimé pour des raisons pratiques claires hein, de narration et qu'on pourrait prendre peut-être un instant pour le jauger un peu, prendre du recul et se cogner tout de suite contre le mur parce qu'il est vraiment trop grand. On ne peut pas le saisir du regard ni même l'imaginer. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous imaginer l'univers, mais à un moment donné, on se heurte à une limite de notre capacité à imaginer.
Ah bah moi, j'entends syntax error dans ma tête.
Voilà. Alors, quelques ordres de grandeur pour rappel, si vous n'avez pas suivi. Donc, la distance de la Terre à la Lune, c'est environ 384 000 km. Donc ça, c'est plutôt stable. La distance optimale pour un voyage vers Mars, c'est-à-dire la distance relativement courte, parce que bien sûr la distance entre la Terre et Mars est
variable.
Voilà. Là c'est plutôt de l'ordre d'une soixantaine de millions de kilomètres, mais peut-être qu'on ira là-bas dans une douzaine d'années.
J'aime bien comment tu juxtaposes soixantaine, donc c'est pas autant, mais c'est des millions en même
temps. Ah oui, là c'est des millions de kilomètres. La distance de la Terre au Soleil, c'est plus de l'ordre de 150 millions de kilomètres.
C'est pas tant
c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. Et la distance entre le Soleil et la ceinture de Kuiper, où se trouvent les planètes naines comme Pluton et ses copines, c'est plus d'une cinquantaine d'unités astronomiques. Enfin, c'est vraiment voire une centaine. Ce sont des distances qui sont vraiment très grandes par rapport au système
solaire
intérieur, oui. Qui est composé des trois premières planètes.
Mais Pluton s'est pas fait disqualifier, c'est plus une planète.
Alors oui, Pluton n'est plus une planète. D'autant
Pluton
plus qu'il y a,
pour toujours.
Il y a d'autres planètes, enfin d'autres corps qui ont les mêmes caractéristiques que Pluton. Pluton n'a pas vraiment la même l'orbite de Pluton ne ressemble pas du tout aux orbites des planètes géantes comme Neptune et compagnie ou aux planètes du système solaire intérieur. Enfin bref.
Excuse-moi, je suis désolé.
Mais il y a d'autres Plutons aussi qui ont un peu le même profil. Bref.
Car un Pluton peut en cacher un autre.
Exactement. Bon, là, je vais m'arrêter un peu parce que en fait,
c'est pas un colon.
Je vais m'arrêter avec notre galaxie, parmi des milliards. Donc, la distance entre la Terre et le centre de la Voie lactée, c'est 23 kilos parsec. Bon, à ce stade-là, ça sert à rien que j'explique ce que c'est qu'un parsec ou quoi que ce soit, parce que voilà. En gros, pour ce qu'on en sait, le centre de notre galaxie a peut-être pété au moment où l'intelligence des Homo sapiens leur a permis de conquérir le monde. C'est ce qu'il faut se dire. Peut-être que voilà, une grosse explosion et puis qu'il y a plus de Voie lactée, mais on ne le sait pas encore. Toutes les étoiles sont peut-être mortes depuis longtemps, pour ce qu'on en sait, chaque jour nous apporte juste la confirmation du contraire. Donc, on gère toujours le passé. Ce n'est pas si différent d'autres situations. Alors, quand je me bats contre un troll, dans un jeu, je n'ai toujours à disposition que l'information qui a vieilli le temps du voyage jusqu'à mes yeux, à mon cerveau, etc.
Excellent.
C'est vrai. C'est vrai.
Ouais, oui,
on gère toujours, tout le temps, le passé. Même si on essaie de gérer l'avenir. Mais avec l'espace, d'anticiper l'avenir. Mais avec l'espace intersidéral, le temps de réaction à un événement est vraiment, c'est incomparablement plus élevé.
Ah puis tu peux pas te tromper très souvent. Quoi.
On joue en aveugle. Voilà, on joue en aveugle. Et donc ça pour des jeux de science-fiction, ça pourrait être une conséquence très intéressante à mettre en jeu. On joue en aveugle et on. Bon alors ensuite, je sais pas comment on pourrait organiser ça. Hein. C'est sûr que si on imagine un polar de science-fiction où il y avait des scènes comme il y a un élément d'enquête dans le système solaire voisin, là tu voyages, tu meurs de vieillesse, tes enfants récupèrent un 10, ils retournent, leurs enfants informent les petits-enfants du meurtrier que leur grand-père était une ordure. Donc, je sais pas trop comment mettre ça en jeu et tout, mais en tout cas, je pense que...
Et moi j'aurais envie de jouer à ça, hein, honnêtement.
Ça mérite qu'on s'y penche et qu'on honore l'espace comme il le mérite, comme il se doit. Qu'on ne l'esquive pas trop, quoi. Enfin, qu'on fasse face à l'espace.
Mais d'un autre côté, c'est assez quoi, c'est, on le fait indirectement. L'approche n'est pas exactement la même, mais quand tu vois de l'heroic fantasy ou même de l'historique, ou une querelle entre deux villages pour du bétail qui a été volé, qui dégénère, et trois siècles plus tard, ils sont encore en guerre, les deux clans, tu vois. C'est la seule différence, c'est que on part du point de départ où il y a une guerre entre deux clans et les joueurs jouent dans cet univers-là. Ouais, mais là, ce qui est sympa, c'est que tu joues justement, joueras une aventure qui t'amène au fur et à mesure de ces siècles. C'est vachement bien.
C'est que l'exemple que tu prends, c'est juste une question de temps qui passe. Là, c'est le temps et l'espace. C'est vraiment qui sont liés de toute façon.
Oui, parce que bon, en fait, si on pouvait franchir l'espace rapidement, c'est sûr que l'espace, enfin, la question du déplacement est centrale. Bon, concrètement, c'est tellement grand que même à la vitesse de la lumière, ça prend des années, voire des millions d'années, voire des milliards d'années pour se déplacer dans cet espace. Donc c'est pas du tout à l'échelle humaine. L'échelle humaine n'a aucun rapport avec. C'est plus une échelle géologique, une échelle astronomique. Du coup, quand on pense à l'histoire humaine, j'en reviens à la question. Au-delà des histoires des jeux, les événements les plus importants de l'histoire de notre race. Bah, ils ont trait peut-être à cette conquête de l'espace qui nous amène. Alors, il y avait un astronome soviétique, non, qui avait théorisé les civilisations de type 1, type 2, type 3. Alors, une civilisation de type 1, c'est celle qui contrôle toute l'énergie dégagée par sa planète. Type 2, c'est le système solaire.
Et par son soleil. Et
je ne sais plus. Enfin, bref. En gros, c'est le processus humain historique d'unification de la planète et puis d'évasion hors de cette planète. Et du coup, je reviens vers vous. Et est-ce que vous avez la réponse à cette question qui est, y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais quel est l'événement historique le plus important que vous ayez vécu dans votre vie?
En ce qui concerne, j'en ai pas, vécu, non, être témoin d'eux peut-être, mais c'est difficile à dire parce qu'en fait, il y a le vécu subjectif. C'est-à-dire que subjectivement, c'est sans doute les attentats du 11 septembre qui ont le plus marqué parce que c'était pendant mon adolescence, etc. Après, c'est clairement pas l'événement. Enfin, ça se discute, mais c'est peut-être pas l'événement historique le plus important en tant que tel. Il y a aussi la mort de Mitterrand, dont je me souviens bien, mais ça, c'est peut-être encore moins. ce sera entre ça et effectivement la naissance d'Internet, peut-être, même si là c'est pas un événement mais plus une un truc qui se développe.
Quelle date peut-être on se souviendra dans un million d'années?
C'est marrant, j'ai pas le réflexe de raisonner sur un événement en particulier. Je pense que c'est plus les événements de la vie qui te font évoluer toi en tant que personne. Et ça va être des choses que tu vis.
Non,
donc c'est
la
pas
naissance
forcément...
de ta fille n'est pas un événement historique. Désolé.
Pas encore. Quand elle aura le prix Nobel, là.
Je raisonne pas en événement historique. Je raisonne en événements qui ont marqué ma vie. Et donc, forcément, ça va pas être la chute du mur de Berlin. Je vais te dire une connerie, le choc pétrolier ou je ne sais quoi. Non. Non.
Je n'ai pas la moindre idée.
Et pourtant, tu nous as laissé une bonne dizaine de minutes pour y réfléchir.
Je ne sais pas les événements historiques auxquels je pense comme ça, c'est je n'étais pas
oui,
né.
Oui, alors déjà, on peut se projeter un petit peu, dire qu'il y a quand même des chances pour que durant notre vie, et, vous qui nous écoutez, et puis nous, on vive l'événement du premier voyage habité vers Mars. C'est plausible. Donc ça, ce serait quand même déjà un jour historique. Et vous avez de toute façon déjà vécu le jour historique du 12 septembre 2013. C'est la date où, pour la première fois, un objet fabriqué par l'homme a quitté le système solaire.
Ah oui, c'est un...
Cet objet, donc c'est la sonde Voyager, elle a été lancée en 1977. Donc c'est pour dire quand même que le scénario avec la sonde Voyager et tout...
C'est celle-là qui a le disque gravé
impossible il y en a deux, je crois qu'il y a deux sons, Voyager 1, Voyager 2.
C'est là-dedans où ils avaient mis un disque, une plaque gravée avec tout plein d'informations diverses et variées
sur l'humanité,
nos
points faibles, les points d'accès à la planète,
exactement,
là où se garer plus facilement.
Je veux dire, il y a de la marge parce que
un ticket de métro
en
gratuit.
38 ans, dans ces eaux-là,
37 ans cette année, non, c'est ça, 77.
En une quarantaine d'années.
Cette sonde n'a pas quitté la banlieue de la Terre, quoi. Donc le scénario où les aliens découvrent l'information et puis en profitent. Peut-être que ça se fera, mais dans quelques centaines de millions d'années. Parce que c'est le temps, je pense, qu'il faudra pour que ça aille vraiment loin.
Donc ils vont arriver sur la Terre, ce sera plus qu'un espèce de truc tout sec avec plus personne.
Bon, je conclus, soumettez-vous à l'espace.
Mais il me semble que la mort du Soleil, c'est 5 milliards d'années, je crois, un truc comme ça.
Un peu plus.
Alors, je ne suis pas encore ce chapitre-là.
Je crois que la durée de vie, ça doit être de 8 milliards et on doit en être à 3 milliards.
De toute façon, on s'en fout, on ne sera pas là.
C'est vrai que ce serait un peu plus, mais de toute façon, l'espèce humaine aura disparu depuis.
Ah oui, mais après, ce sera des sauriens.
Bon, mais il y a quand même une question à laquelle tu ne réponds pas, c'est on fait comment pour lancer des dés en antigravité, quoi ?
Bah, une appli.
Eh oui, je pense que c'est là où on en vient à l'appli.
C'est ça.
Il n'y a pas tort.
D'accord. Bon.
Mais ceci dit, si je devais faire partie de l'équipage qui va jusqu'à Mars, je pense que je prendrais un jeu de rôle pour.
C'est ce que j'allais dire. Quel jeu de rôle emporterais-tu sur, non pas sur une île déserte, mais sur une navette spatiale
Ça permet de tenir.
Ouais, mais tu crèveras avant d'arriver, donc c'est con. Ce sera peut-être tes enfants, peut-être, ou tes petits-enfants qui arriveront sur place, ça, non ?
Bah, sur Mars, non, quand même.
Non.
Mais bon, c'est quoi c'est,
T'as pas dit 60 millions de kilomètres,
bah,
je sais pas quoi.
Bah oui, mais 60 millions, tu les fais en. Je sais plus.
Peut-être en 4-5 ans.
T'as dit que c'était 380 000 kilomètres la Lune. Bon, ouais. Ils l'ont fait, ça allait, c'était rapide, mais 60 millions, ça commence, c'est un petit peu plus gros quand même, non ?
Ouais, mais y a, en même temps.
Ah bah quand t'arrives, t'es content, quoi.
En même temps, ce qui prend de l'énergie, c'est le départ et l'arrivée. Je veux dire, ça peut aller très vite hein, entre les deux. À partir du moment où tu as accéléré, il n'y a rien qui te bloque.
Ouais.
Et puis, bon, bref. Et
après, c'est tout droit.
En fait, il faut tourner autour de la Terre, speeder comme un malade, et après, on se décroche et. Voilà, et tu fais Armageddon, en fait, c'est ça ?
Ouais, ça, il y a un peu de...
Bah, c'est comme ça qu'il les lance.
Voilà.
D'accord. Eh bien, merci, Cyril, pour toutes ces informations sur l'espace. Voilà, je vais penser à des trucs différents ce soir.
On va
surtout
bien,
avec la fièvre.
Voilà, on va bien réfléchir ce soir et se sentir insignifiant face au vide de l'espace.
Alors, voyons voir où est-ce qu'on en est. Eh bien, oui, mais c'est maintenant au tour de Côme qui va nous parler de Sorcerer.
Un jeu de rôle intense, c'est le sous-titre. Voilà. Et oui, parce que après le numéro d'été, j'ai dit en finissant l'émission à David, bon, tu sais, cette année, je vais être un peu moins dispo, je vais peut-être pouvoir pas assister à toutes les émissions. Et là, il m'a dit, ah mais ça tombe bien, puisque tu vas pas revenir avant un certain temps, d'ici février, tu vas bien avoir le temps de chroniquer ça. Et là, il m'a mis deux bouquins de 250 pages entre les pattes, avec un petit sourire malicieux. Et c'est 250, donc c'est, oui, j'exagère peut-être un peu, mais pas loin de 400 pages, donc ils sont en fait la quasi intégralité de la gamme de Sorcerer. Sorcerer, c'est un jeu de rôle. Pour nos plus jeunes auditeurs qui ne connaîtraient pas, dont je faisais partie, hein, soit dit en passant, c'est un jeu de rôle qui est sorti donc déjà qui a été écrit par Ron Edwards, donc Ron Edwards, hein, qui est le créateur de la théorie GNS, co-créateur de La Forge, etc. C'est un jeu de rôle qui est sorti en 96.
La Forge est puissante dans sa famille.
Sorti en 96, donc à la base qui était distribué plus ou moins gratuitement via les internets, et puis une version finale entre guillemets.
Alors,
est sortie en 2001.
En fait, non, surtout pas. parce que il me semble qu'il avait précisé qu'il l'a toujours vendu.
Alors, c'est pas exactement, c'est-à-dire qu'en 96,
il y a une version qui a été gratuite.
Oui, mais en fait, il disait qu'il l'a. En 80, enfin, lui qui dit ça hein, dans le bouquin, qu'il l'a distribué à qui voulait en 96 en disant aux gens si vous avez aimé, merci de m'envoyer $5 par la poste. Et en fait, il y a énormément de gens qui lui ont envoyé $5.
D'accord.
Donc, c'était plus ou moins gratuit en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il a quand même gagné de l'argent avec, mais voilà.
Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il précise qu'il a pu financer chacune des
Tout
éditions successives
ouais,
par
ouais.
l'argent que lui a rapporté.
C'est ça. Et donc en fait, il a sorti une version plus finalisée, papier, etc. en 2001. Et la version que je chronique aujourd'hui, c'est la version annotée, qui est sortie en 2011, donc dans sa maison d'édition qui s'appelle Adept Press. Et donc, qu'est-ce que c'est Sorcerer ? Bah, c'est vraiment le grand-père en fait de pas mal de jeux qu'on appellerait narrativistes aujourd'hui. Hein. Et il y a beaucoup de concepts en fait qui, je pense, à l'époque étaient vraiment révolutionnaires, qui aujourd'hui sont peut-être un peu moins, mais qui sont quand même très intéressants. Dans Sorcerer, on joue des sorciers, forcément. Qu'est-ce que c'est les sorciers ? C'est tout simplement des gens qui savent comment invoquer et soumettre des démons à leur volonté. C'est-à-dire que le seul truc magique dans l'univers, c'est les démons. Il n'y a pas d'autre chose, de boule de feu, de ce que vous voulez. Tout passe par les démons. Alors, je vais vous parler un petit peu du livre par le menu. Le livre se divise en 7 chapitres. le premier chapitre, c'est l'introduction, c'est-à-dire les principes de base. Les principes de base au niveau du jeu, c'est quoi ? C'est que tout se base sur les choix moraux des personnages. C'est-à-dire, en tant que sorcier, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour acquérir du pouvoir ? Jusqu'où ils sont prêts à aller dans leur utilisation de la sorcellerie ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir avec la sorcellerie ? Donc, on demande quand même aux joueurs de se poser des questions par rapport à leur personnage. C'est pas juste, ah, je vais faire un sorcier super bourrin qui aura des centaines de démons à sa botte. C'est, non, c'est pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire avec, est-ce que ça va pas un petit peu t'aliéner du reste de l'humanité, etc. Donc, c'est un jeu intense, hein, je vous rappelle. Oui. Au niveau technique, selon Edwards, on peut utiliser n'importe quel type de dé, donc c'est tous les mêmes. Cela dit, lui, dans les exemples qu'il donne, j'ai l'impression qu'il se base sur le D10, mais après c'est vraiment des histoires de probabilité, c'est-à-dire qu'il dit, si vous exactement. Voulez des probabilités plus fortes, prenez du D6, sinon prenez du D20, voilà. Le système est assez simple en soi. Tu lances toujours contre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, c'est donc un autre joueur ou le MJ. Tu lances un nombre de dés qui est égal à un attribut, je reviendrai sur les attributs après, et celui qui fait le plus grand nombre a gagné. S'il y a égalité, on regarde les deux résultats les plus élevés suivants, et ainsi de suite. Une fois que le vainqueur est déterminé, on calcule la marge de réussite, c'est-à-dire le nombre de dés du vainqueur qui sont supérieurs aux dés du perdant. Donc, pour prendre un exemple simple, on lance chacun 5 dés. Moi, je fais 5-10, j'ai une putain de chance. Et toi, tu fais juste 1-10 et 4-2. Du coup, on regarde les deux résultats les plus hauts, c'est tous les deux des 10. Donc, on regarde les deux résultats suivants les plus hauts. Moi, c'est un 10, toi, c'est un 2, donc je gagne. Et ensuite, j'ai 4 dés qui sont supérieurs aux tiens, c'est-à-dire j'ai 4 10 qui sont supérieurs à tes 4 2, donc je gagne avec une marge de réussite de 4. Voilà, bon, dit comme ça, c'est pas forcément évident, mais...
C'est un truc qui m'avait un peu...
Honnêtement, c'est bien expliqué, enfin, plus ou moins, hein, j'y reviendrai.
Je trouve ce système un peu foireux.
C'est pas bon, mais ça fonctionne, on va dire, voilà. Par contre, il y a un autre truc sur lequel je suis un peu plus dubitatif, c'est le bonus d'action. En gros, si tu fais une action 1, une action A plutôt, on va dire, et que sa réussite t'aide à effectuer une action B, tu peux transférer tes succès du jet A à l'action B. C'est-à-dire, par exemple, en combat, si tu tapes sur la tête d'un mec, bah ça va, en gros, hein, schématise un peu, mais tu tapes sur la tête d'un mec, ça participe d'un processus où tu vas lui péter la gueule, en gros. Donc l'idée, c'est que plus ça avance et plus t'as le nombre de dés à... Enfin, là, pour le coup, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais ça me paraît extrêmement bourrin. Je suis moyen
plus
convaincu.
Plus tu gagnes, plus tu gagnes.
Ouais, c'est un peu ça, ouais. Sachant que l'idée, en fait, a priori derrière ça, c'est de pousser les joueurs, en fait, à dire « Ah, mais attends, là, je fais ça. » Parce que, bon, je prends l'exemple du combat, mais ça peut marcher dans n'importe quelle situation. Hein. Mmh. « Ah, là, j'ai crocheté cette porte. Ça m'aide à rentrer dans le bâtiment. Et du coup, ensuite, quand je suis dans le bâtiment, enfin, il y a une espèce de processus mental comme ça. » Bon, j'avoue être un peu dubitatif.
Tu veux dire que le joueur peut rajouter à la narration des...
Bah, l'idée, c'est que c'est ça. C'est-à-dire
j'ai deux réussites à ma première tape, je rajoute 2 dés à la frappe
voilà.
d'après.
Je me souvenais pas du tout
ça.
De ça. Oh.
C'est ça, c'est ça. Et t'as aussi des dés de bonus si tu fais du bon roleplay. Voilà.
Alors, tu décris une super mouvement qui t'a permis de faire les 2 dés de dégâts, machin truc. Après, du coup, tu lances 2 dés de dégâts en plus 1 parce que t'as fait un super explication de l'acrobatie que t'as fait pour lui mettre. Putain, tu vas vite le démonter, le monstre. Hein.
C'est ça, ceux qui pensent à Feng Shui n'ont rien compris. Alors, un personnage de sorcerer. Alors, pour le coup, la création de personnage est simplissime. Il y a 3 attributs pour un personnage. Il y a la force, la volonté. Et ce qui s'appelle en anglais lore, donc c'est-à-dire en gros le savoir, les connaissances magiques. C'est, voilà. Tu répartis 10 points dans ces attributs comme tu veux. Donc voilà, tu peux mettre 3 en force, 6 en volonté, 1 en lore si tu veux. Et c'est le nombre de dés achetés en cas de test. Les tests se font toujours, hein, je rappelle, sous un de ces 3 attributs. Donc en gros, si t'as un truc physique à faire, ça va être avec force. Un truc d'intelligence, ça va être avec volonté. Un truc magique, ça va être avec lore, en gros. Chaque attribut s'accompagne d'une ou plusieurs descriptions qui sont en fait l'équivalent de traits dans d'autres jeux. L'idée, c'est que par exemple, si sous ton score de 5 en volonté, tu vas écrire, je sais pas, haute estime de soi, ça va t'aider dans certaines situations, mais dans d'autres, ça peut t'handicaper. Donc l'idée, c'est de personnaliser un petit peu tes attributs pour que ce soit un peu plus défini que juste j'ai une grosse volonté, quoi.
Oui, d'accord.
Voilà. Le personnage a aussi une couverture, c'est-à-dire le métier qu'il exerce officiellement, parce que forcément il n'y a pas marqué sorcier sur sa carte de visite. Et tu choisis en fait si c'est le score de couverture est égal à force ou à volonté au choix. Et en fait, ça remplace une liste de compétences. C'est-à-dire que si ta couverture c'est agent du FBI, tu, à chaque fois que tu veux faire une action qui est liée à être un agent du FBI, tu vas jeter ton dé de couverture. Alors forcément, si t'es fleuriste, ça c'est un peu moins.
Il faudra t'appeler Harry Dresden et puis comme ça au moins ta couverture c'est l'aide sorcier.
Et enfin, tu as aussi un score en humanité. Qui est lui aussi égal à force ou volonté, qui est à la fois, tu peux faire des scores, des jets d'humanité, ça va surtout rentrer en jeu quand tu fais des actes magiques, forcément.
On fait une petite pause, on fait une coupure maintenant et on revient tout de suite après.